On va prendre ce temps maintenant d'ouvrir la parole ensemble et de continuer notre étude des fruits de l'esprit. Jésus nous a dit qu'il nous demande de porter beaucoup de fruits. Et en plus, l'apôtre Paul nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que ces fruits-là. Dans Galates chapitre 5, verset 22, ce texte qu'on a déjà étudié plusieurs fois, il est dit ceci, « Le fruit de l'esprit... c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Amen. On a déjà parlé de l'amour, de la joie, de la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Il nous reste donc les trois dernières vertus de ce merveilleux fruit de l'esprit. Mais ce passage est là pour aussi répondre à une question. Bon, déjà, cette question, qu'est-ce que c'est que le fruit dont Jésus parle? Mais aussi une autre question. Comment un croyant peut-il prouver qu'il est né de nouveau? En manifestant le fruit de l'esprit. Vous êtes d'accord? Ben oui, si l'esprit, quand il produit quelque chose dans une vie, si ça apparaît, c'est que le Saint-Esprit est bien là, tout simplement. Jésus va le dire d'une autre manière. Une vigne ne peut pas produire des figues, etc., etc. Si c'est le Saint-Esprit qui est en nous, alors automatiquement de notre vie va jaillir toutes ces vertus-là. Bien sûr qu'il y a besoin de progresser pour chacun, et on a tous certains aspects à corriger, mais ce qui est sûr, c'est que tous ces aspects-là doivent apparaître dans la vie du croyant. Et ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose de normal. Ce matin, je voudrais pas juste étudier ces trois vertus comme cela, mais qu'on puisse s'appuyer sur un autre texte. Vraiment, j'ai été conduit par le Seigneur à faire ce parallèle auquel j'avais jamais pensé du tout, dans Ézéchiel chapitre 47, une vision que Ézéchiel a eue, qui est bien connue par ailleurs. Ézéchiel 47, pour certains, vous savez tout de suite de quoi il est question. Mais on va lire les versets de cette vision. Et ensuite, on va voir comment ça peut se caler sur ce fruit de l'esprit. Ézéchiel chapitre 47, verset 1er. Il me ramena vers l'entrée de la maison. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera, et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines, et il y aura la vie partout où arrivera le torrent. Alors des pêcheurs s'y tiendront. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce de poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et à leurs feuilles de remède. Amen. Vous connaissez ce texte? Vous ne l'avez pas découvert ce matin? Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe dans ce texte. Un fleuve qui est là, qui commence par un filet d'eau, semble-t-il, et qui se termine en un fleuve immense qui se débouche dans la mer et qui amène la vie partout, partout où il va. Et quand on étudie un peu la géographie, on s'aperçoit que la mer en question, c'est la mer morte. La mer qui est pleine de sel, où aucun être vivant ne peut survivre. Mais là, dans ce fleuve, alors il y a déjà une vision prophétique de ce qui se passera, je le crois, lors du règne du Seigneur Jésus sur la terre, avec le millénium, quelque chose qui va se passer de cet ordre-là. Mais il y a aussi cette image spirituelle de ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur d'un croyant. Parce que si on revient quelques versets, quelques chapitres plutôt en arrière, dans Ézéchiel chapitre 36, il y a eu cette promesse qui a été donnée, je vous donne la référence, 36-25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Vous vous souvenez de ce texte aussi? Ézéchiel, par le Seigneur, donne cette parole à Israël. Il va y avoir une œuvre de purification, de bénédiction par de l'eau qui va purifier. Et après, il a cette vision de l'eau qui amène la vie. Et, pour faire le lien avec le fruit de l'esprit, qui fait pousser des arbres qui rendent leurs fruits tous les mois. C'est surnaturel, hein, on est d'accord. Vous avez des arbres fruitiers comme ça chez vous? Si oui, dites-le moi, je viendrai tous les mois faire quelque chose, une récolte. Mais ce n'est pas le cas, non. Une fois que la saison est passée, il n'y a plus rien. Tout est vide. Et parfois même l'arbre, il perd toutes ses feuilles. Et on se demande même s'il va pouvoir reprendre quelque chose. Mais là, quand il y a le fleuve de Dieu qui coule, il y a des choses qui se passent. Quand le Saint-Esprit est dans le cœur d'un croyant, il y a des choses qui se passent. Un jour, quand nous avons fait la paix avec Dieu, un jour, quand nous avons compris notre péché, notre mort spirituelle et que nous avons accepté le pardon de Dieu parce que Jésus a donné sa vie à la croix, Jésus a fait couler dans notre cœur des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Mais vous avez remarqué, ces fleuves d'eau vive, ils ne coulent pas à l'intérieur comme ça. Vous avez remarqué ça? C'est des fleuves d'eau vive qui coulent de notre cœur vers l'extérieur. Et donc, il y a du fruit qui doit se manifester. Le fruit de l'esprit. Et c'est intéressant de faire ce parallèle entre cette vision et les trois derniers aspects du fruit de l'esprit, pour être plus précis. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Ce mot nous parle donc de fidélité, de faire confiance, mais aussi de fiabilité. La fiabilité. C'est la même chose. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter. On peut compter sur lui parce qu'il est fidèle, justement. Parce qu'il est fidèle à Dieu et parce qu'il est fidèle aux autres, à sa parole. Le fruit de l'esprit nous amène à développer cette qualité-là. Et combien c'est quelque chose qu'on a besoin. Aujourd'hui, il suffit de regarder un petit peu les nouvelles, les informations. Je me souvenais de quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps. On nous parle souvent des étiquetages, que surtout il faut faire très attention à ce qui est écrit, etc. La répression des fraudes vraiment piste les fraudeurs justement dans ce contexte-là. Il y a les appellations d'origine contrôlées. On entend parler beaucoup de ça parce qu'il y a eu plusieurs scandales qui ont conduit à ce qu'on soit plus vigilant. Souvenez-vous, en 2013 par exemple, le scandale de la viande de cheval. L'usine Spanghero à Castelnaudary, c'est pas très très loin. Et on nous promettait de la viande 100% pur bœuf, origine européenne. Et vous savez, j'ai regardé l'enquête, ce que ça a donné. En fait, c'était de la viande de cheval qui était mélangée, qui provenait du Canada, donc origine européenne, hein, merci. Provenait du Canada, passait par les Pays-Bas, où là-bas, avec des astuces administratives, ils changeaient les étiquettes. Ça devenait du bœuf d'origine roumaine ou belge, par magie. Et ça atterrissait dans nos assiettes. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à chercher les origines, etc. Mais c'est important. Et la fiabilité, c'est quoi? C'est le lien entre la réalité et l'étiquette. D'accord? C'est ça la fiabilité. On fait confiance parce qu'on sait que le lien, il est là. Mais est-ce que nous ne portons pas parfois des étiquettes de croyants? Et nous devons être fiables. On a le droit de porter l'étiquette de croyant, ce n'est pas un péché, hein, au contraire. Mais il faut qu'on soit fiable. Et la fiabilité nous amène à nous poser la question, c'est quoi qui est à la source? Quelle est la source? Regardez ce passage qu'on vient de lire, Ézéchiel 47. C'est quoi la source du fleuve? Ça vient d'où? Alors, vous avez vu, c'est dans le premier verset, hein, c'est pas un piège. L'eau sortait d'où? Sous le seuil de la maison. Sous le seuil de la maison. La maison, c'est pas une maison, c'est le temple. C'est la maison de Dieu, si vous voulez. C'est le temple que Ézéchiel a vu en vision dans les passages précédents. L'eau prend sa source dans le temple et pas n'importe où, dans le Saint des Saints, dans l'endroit où une fois par an le sacrificateur devait rentrer pour offrir le sacrifice qui amenait le pardon pour tout le peuple. Et on sait que ça devait se répéter une fois par an parce que c'était un sacrifice d'un animal. Mais que Jésus est venu accomplir le sacrifice parfait dans le vrai Saint des Saints qui se trouve dans le ciel. À son Père, il a présenté son propre sang. Et c'est de là que la source coule. Amen. Est-ce que, frères et sœurs, notre source, la source de notre vie, la source de notre élan, la source de notre désir, de nos envies, elle se trouve dans le ciel, elle se trouve dans la présence de Dieu, elle se trouve au pied de la croix? Est-ce que la source de notre vie chrétienne se trouve à la croix? Est-ce que nous avons vécu cette expérience qui est venue bouleverser notre vie? Si oui, ben nous sommes sur le bon chemin pour être des personnes fiables, fidèles, parce qu'il y a eu quelque chose qui est venu marquer le commencement de notre vie spirituelle. Amen. La fiabilité, savoir quelle est notre source. Vous savez, c'est quoi le contraire de la fiabilité, quand on la regarde sous cet aspect-là? C'est cette attitude de cœur où on se laisse embarquer un petit peu avec tout ce qui peut passer. Jacques, il dit à sa manière, alors c'est dans un contexte où les gens demandent la sagesse, mais il dit de la demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est exactement le contraire de la fiabilité. Quand on est dans l'inconstance, alors, un jour on dit oui, le lendemain on dit non, un jour on croit ceci, le lendemain on croit le contraire, c'est l'inconstance. Mais le fleuve du Seigneur, il est clair, il vient, il prend sa source dans l'œuvre de la croix, il prend sa source dans la présence de Dieu et il nous permet de connaître un cheminement spirituel qui va grandissant. Oh, je me souviens et je tremble à l'idée de se souvenir de cette parole qu'un jour un frère, c'était un frère, oui, mais quelqu'un soi-disant plus mature, a dit à des jeunes qui aimaient le Seigneur et qui priaient de tout leur cœur, il leur a dit, « Oh, vous inquiétez pas, ça va passer, vous allez vous brûler les ailes, arrêtez de trop prier. » Heureusement qu'on n'a jamais écouté son conseil. Parce que la plupart de ceux qui ont entendu ce conseil et qui l'ont pas mis en pratique sont devenus pasteurs depuis. Parce que c'est pas vrai. Et Ézéchiel 47 nous montre que la vie avec Dieu, c'est quelque chose qui va progressant, qui va de mieux en mieux, un épanouissement. Oh, c'est pas question des bénéfices matériels, ça n'a rien à voir avec ça, mais que c'est quelque chose d'intérieur, de spirituel. Il y a des hommes de Dieu qui ont fini leur vie en prison, qui ont fini leur vie abandonnés, oubliés de tous, mais qui ont vécu le ciel sur la terre dans leur cachot. Amen. Amen. Parce qu'ils savaient où c'est qu'était leur source. Leur source, elle n'est pas dans les choses d'ici-bas, elle se trouve dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, personne sur la terre peut nous l'enlever. Même quand on se trouve au fond du trou, dans un trou ténébreux, je pense à des histoires où quelqu'un a été jeté une fois dans une fosse de cadavres, alors qu'il était bien vivant lui, volontairement. Mais là, il a vécu une expérience avec Dieu. Au début, il était écœuré parce que l'odeur, vous imaginez le spectacle, hein, c'était horrible. Et puis petit à petit, il a vécu la réalité que son Dieu était avec lui. Et il dit lui-même, c'était le ciel sur la terre. Vous imaginez, là où il était, il vivait le ciel. Parce que c'est quelque chose de spirituel, d'intérieur. Et c'est ça, la fiabilité. C'est ça, la fiabilité, c'est cette constance dans les voies du Seigneur. C'est ce désir de rester accroché au Seigneur, quel que soit ce qui peut se passer. Je suis fidèle parce que j'aime le Seigneur et ça ne dépend pas de ce qu'il y a autour de moi. J'aime le Seigneur, je me suis résolu à l'aimer un jour et jour après jour, je reprends cette résolution, cet engagement et le Seigneur est là par sa grâce. La source du Saint-Esprit, c'est une source de pureté. Ça nous amène à nous purifier. Je répandrai une eau pure sur votre vie et vous serez purifiés. Et on est dans un monde aujourd'hui où on a besoin de voir, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes fidèles, fiables. Ils donnent leur parole, ils accomplissent leur parole. Amen. On voit que ce sont des choses qui ne sont pas forcément mises en avant, hein. Quand on écoute les discours politiques, excusez-moi, je ne cite personne, mais de manière générale, une année, ils disent des choses sur un domaine, et l'année d'après, ils disent le contraire, avec autant d'aplomb et autant de persuasion. Mais on ne veut pas être de cet ordre-là. On leur laisse la politique, nous on veut s'occuper du spirituel et de chacune de nos vies. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Quelle est cette douceur dont il est question ? Souvent, on se trompe dans le sens de la douceur. Quand on pense à la douceur, on pense à une sorte de lâcheté, de mollesse, de manque de conviction, de complaisance, ou le fait d'avoir la paix à tout prix. Mais ce n'est pas ça la douceur dont parle la parole. Hein. Ça n'a rien à voir. La douceur, c'est le contraire de la violence et de la vengeance. Ce n'est pas la timidité d'une personne réservée. Ce n'est pas de la simple gentillesse. C'est le contraire de l'affirmation de soi. J'ai raison, je veux absolument montrer à tout le monde que j'ai raison. C'est pas ça la douceur. La douceur, pour le dire très simplement, c'est se placer sous le contrôle du Saint-Esprit. Celui qui est doux, il se soumet volontairement au Seigneur. Et à l'époque, quand les Grecs utilisaient ce mot de douceur, il l'utilisait dans un cadre pas du tout biblique pour décrire un cheval que quelqu'un avait réussi à dompter et qu'il avait entraîné à supporter la bride. Vous avez déjà vu un cheval ? Vous imaginez les westerns où ils sont en train de dompter le cheval et qu'il se rue de tous les côtés, il casse la barrière, il envoie valdinguer les messieurs. Ça, c'est un cheval qui n'est pas dompté, un cheval qui n'est pas doux, si vous voulez. Par contre, le cheval qui est doux, on peut en faire ce qu'on veut, mais ça va servir. Et au temps des Grecs, on sait que, au temps de Jésus, le cheval, c'était un moyen de transport merveilleux. Avec certains chevaux, il y en a qui ont gagné des courses, il y en a même qui ont gagné des guerres, grâce à la cavalerie. C'était un instrument, et Dieu veut. Alors, on n'est pas des chevaux, hein, je vous rassure. Surtout quand on a parlé de la viande de cheval, on n'a rien à voir. Mais on est des instruments qui doivent se placer sous le contrôle du Saint-Esprit par la douceur. Cette douceur qui est cette force contrôlée. On se place aux ordres du Saint-Esprit. Ézéchiel, devant le guide qui est là, qui lui dit de faire certaines choses, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il fait ? Il râle, ah non, j'ai pas envie de prendre un bain, il fait trop froid. C'est ça qu'il fait Ézéchiel ? Non. Ézéchiel, il est plein de douceur par rapport à son Dieu et il obéit, il traverse, il a les pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules, il s'est fait emporter même. À chaque fois, il obéit docilement. La douceur, elle se manifeste dans notre façon d'obéir au Seigneur. D'ailleurs, il y a des textes qui nous disent très, très simplement, Jacques nous parle de recevoir ou d'accueillir la parole de Dieu avec douceur. Pourquoi ? Parce que parfois, on peut ne pas l'accueillir avec douceur. Parce qu'elle vient nous remuer et on peut, justement, faire le cheval qui se cabre et qui refuse. Ou alors, on dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu dis ça, mais c'est vrai, je l'accepte. Parce que je sais que c'est pour mon bien. Le Seigneur aime et bénit les personnes qui reçoivent sa parole avec douceur. Quand on doit reprendre quelqu'un, qu'est-ce qu'il est demandé ? De faire reprendre en tapant du poing sur la table. C'est moi qui ai raison, soumets-toi, mon frère. C'est ça qui est écrit, non? reprendre avec douceur. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de votre foi, de l'espérance qui est en vous. Amen. La douceur est tellement importante. Imaginez un instant la foudre qui tombe, qui vient illuminer le seuil pendant un instant et qui frappe la terre et coupe en deux un arbre. Est-ce que ça a un meilleur résultat que le soleil qui, sans un bruit, brille de toute sa lumière sur un petit plan dans la terre? Qu'est-ce qui a le meilleur résultat? Il y en a un qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de lumière d'un coup, mais ça produit la mort derrière. Et le soleil, la lumière du soleil, paisiblement vient donner toute l'énergie pour que le petit plan devienne, lui, un arbre. Ce que l'homme va détruire par la rudesse, la dureté, Dieu va le planter et amener la vie par la douceur. Et nous avons besoin de demander au Seigneur de nous aider à être doux. Et à l'image même de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il est dit du Seigneur? Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Je suis doux et humble de cœur. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus l'a dit en parlant de lui. On comprend bien que quand Jésus dit certaines choses le concernant, on peut lui faire confiance. Jésus est fiable, il n'y a aucun souci. Et il dit, je suis doux. Quel est ce roi plein de douceur monté sur un ânon, le petit d'une ânesse? La prophétie parle aussi de ce roi. Ce n'est pas un roi qui vient tout casser, un roi qui vient imposer sa domination. Regardez notre roi des rois, comment il est venu la première fois sur la terre. Dans l'humilité, plein de douceur. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous amène dans cette réalité que nous ressemblions à notre Seigneur. Être comme lui, avoir le même cœur que lui. Mais ça ne veut pas dire ne pas réagir. Par exemple, on parlait de reprendre. Il faut de la douceur, mais il faut reprendre. D'accord? Si quelque chose est tordu, si une barre en fer est tordue, et qu'on n'emploie que la douceur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va rester tordue, c'est tout. Mais si on est ferme tout en étant doux, ça peut être redressé. D'accord? Si on est trop ferme, sans douceur, on casse tout. Mais il faut la fermeté et la douceur qui permettent d'équilibrer le travail. Et le Seigneur Jésus est le meilleur, le Saint-Esprit qui nous a accordé, c'est le meilleur moyen d'être redressé, d'être corrigé, d'être assaini, d'être béni par sa grâce. Et cette œuvre qu'il fait en nous, il veut que nous puissions aussi la faire autour de nous. D'ailleurs, on a cité en tout cas ce passage d'Ézéchiel 36. Et vous savez que là est donnée la clé pour comment un cœur dur peut devenir tendre. Comment un cœur dur peut devenir doux. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de pierre, un cœur dur, un cœur qui fait mal, un cœur qui blesse face à un cœur de chair qui est tendre, qui est malléable entre les mains du Seigneur, qui est attentif aux directions du Saint-Esprit. Mais pour que cela puisse se passer, c'est l'eau pure qui est déversée. Dieu vient mettre son Saint-Esprit au fond de nous pour que les fleuves d'eau vive coulent. Et un de ces fruits qui va en sortir, c'est la douceur. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. On pourrait parler de tempérance, certaines versions ont ça, vous en avez? Tempérance, retenue, aujourd'hui on a le mot self-control. Mais il y a aussi cet aspect de modération, sobriété ou d'équilibre. Et c'est important de réaliser tout ce qu'il y a dans ce mot maîtrise de soi. Littéralement, ça veut dire autorité au-dedans. Ça veut dire que j'ai l'autorité, c'est pas le dedans qui a autorité sur moi, non, c'est j'ai autorité sur ce qui se passe au-dedans de moi. Parce que le Saint-Esprit m'en donne la capacité. Et donc je me mets pas en colère, je rugis pas à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais j'ai une autorité spirituelle qui me permet de me contenir et d'exprimer parfois la colère, mais dans de bonnes conditions. D'accord? On a le droit de se mettre en colère ou pas? On a le droit que des choses nous révoltent? Oui, mais on n'a pas le droit de laisser la colère s'exprimer n'importe comment. Ça doit être canalisé. Et c'est ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce qui nous permet d'assainir notre vie intérieure. Ça voudrait partir dans tous les sens, mais le Saint-Esprit en nous permet que tout soit assaini. Comme cette mer morte qui est là, notre cœur est un cœur mort, pécheur, par lui-même. Ne comptez pas et ne comptez jamais sur votre cœur d'avant, hein, pour vivre. Parce que ça donnera toujours le même résultat, la mort. Mais par la grâce de Dieu, on a ce cœur nouveau et on a cette possibilité d'assainir toutes les choses qui avant étaient mauvaises. La foi, par contre, ce n'est pas une liste d'interdictions. Parfois, on a cette idée-là que la foi, c'est tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Alors, bien sûr, les commandements, les 10 commandements, ils disent ça. Mais ce n'est pas des obligations qu'on doit faire en pleurant. Ah, j'ai pas envie. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une puissance qui nous permet de ne pas faire ce qui est mal. On a une capacité, une autorité de refuser le péché par la foi. J'avais un pasteur que je connais bien qui m'avait raconté une discussion qu'il avait eue avec un ami qui n'était pas croyant, mais qui s'intéressait aux choses de Dieu. Et il lui disait, mais moi je ne veux pas devenir chrétien parce que justement, vous les chrétiens, il y a beaucoup de choses que vous n'avez plus le droit de faire. Alors ce n'est pas intéressant d'être chrétien. Par exemple, vous êtes obligé de ne plus fumer la cigarette. Alors le pasteur lui a dit, mais c'est pas que Dieu m'oblige à ne plus fumer, mais sans la foi, j'étais accro à la cigarette, et avec la foi, je suis capable de dire non, de prendre position face à la cigarette. Et toi? Eh bien, moi, je suis accro. Ça s'est arrêté là. Mais j'ai aimé cette pensée que Dieu ne nous force pas à faire les choses, mais il nous donne l'autorité pour dire non à ce qui est mauvais dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'incomparable, parce que sur la terre, il y a des choses qui se passent. On ne remet pas en question tous les centres d'aide aux personnes fumeurs, etc. Toutes les choses qu'on peut essayer de faire, il faut le faire. Mais il n'y a rien qui peut se comparer à l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Combien de personnes je connais qui m'ont dit « j'étais fumeur ». Justement, ce pasteur, il m'a dit « avant d'être pasteur, avant d'être chrétien, je fumais. » Et puis quand j'ai prié, quand j'ai demandé au Seigneur son secours, il m'a libéré totalement par la puissance du Saint-Esprit. Pas de programme de ceci ou de cela. Il y en a pour qui ça marche comme ça, il y en a qui ont besoin du programme, peu importe. Mais il y a un Saint-Esprit qui est capable de libérer, d'apporter la délivrance, d'assainir les choses qui ne vont pas dans nos vies parce que le Seigneur nous aime et parce que le Seigneur veut qu'on s'épanouisse. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste toujours la tête courbée en train de pleurer parce que c'est dur. Non, le Seigneur veut nous donner la joie, la paix, la patience. Je ne vais pas reprendre tous les points. Mais le Seigneur est celui qui, par son Saint-Esprit, nous fait abonder dans tout cela parce qu'il nous aime. Est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit maîtrise notre vie? Est-ce que nous voulons qu'il nous donne la force pour maîtriser notre cœur? Alors, crions à lui. Laissons-le agir, parler, pointer du doigt peut-être ce qui ne va pas. Il le fera beaucoup mieux que si c'est un homme qui le fait. Vous savez pourquoi parfois des hommes viennent nous dire, nous reprendre? C'est une bonne question ça. Vous savez pourquoi des fois le Seigneur est obligé d'envoyer le pasteur parler à un chrétien pour lui dire de corriger quelque chose? Mais parce qu'il n'a pas écouté d'abord le Saint-Esprit qui lui a parlé sûrement plusieurs fois. Du coup, à un moment donné, c'est le pasteur qui est obligé d'aller lui dire. Et parfois, ce n'est pas que le pasteur, c'est plein de personnes différentes. Mais il faut bien comprendre que le premier qui agit, le premier qui a intérêt à le faire, ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous aime plus qu'aucun homme ne peut nous aimer. Et Dieu a tout intérêt à ce que ce soit son Saint-Esprit qui conduise et dirige notre vie. Remarquez que le fleuve dans lequel Ézéchiel a marché ne coule pas dans toutes les directions, il n'est pas éparpillé de tous les côtés, nord, sud, est, ouest, non. Il est canalisé là où le Seigneur veut qu'il aille. Le Seigneur veut envoyer ce fleuve de vie vers la mer morte. Frères et sœurs, est-ce que nous reconnaissons encore ce matin que notre cœur, il est mort, notre cœur naturel, notre cœur de notre ancienne nature, il est mort, il ne vaut rien. Malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, il ne vaut rien devant Dieu. Et que le Saint-Esprit nous permet d'avoir la vie. Voilà là le pourquoi du fruit de l'Esprit. Et voilà pourquoi ce n'est pas une option. Si nous voulons vivre, si nous voulons marcher dans la vie du Seigneur, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. nous emporter même, nous amener dans ces attitudes. À un moment donné, on ne se rend même plus compte qu'on les fait parce que c'est plus nous qui le faisons. Oh, combien de fois ça m'est arrivé de prêcher et à un moment donné, j'avais l'impression d'être assis au fond de l'estrade, les bras croisés, en train d'écouter quelqu'un qui prêchait alors c'était moi. Parce que je m'aperçois que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Et moi, je suis le spectateur. Et combien de fois on l'a pu le vivre en témoignant à quelqu'un, dans toutes sortes de circonstances. Le Saint-Esprit maîtrise nos vies. Et quand il le fait, ça amène la bénédiction. Amen. Oh, j'avais marqué beaucoup d'autres choses, mais je voudrais terminer juste avec ce verset que vous connaissez. Proverbe chapitre 4, verset 23, qui est lié à tout ce qu'on vient de partager. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le Saint-Esprit nous apporte cette maîtrise de nous-mêmes. Et tant que je domine sur mes désirs, tant que je garde mon cœur, la vie du Seigneur va pouvoir se manifester. Si je me laisse aller, par contre, je risque de faire tarir le Saint-Esprit. Non pas que le Saint-Esprit, à un moment donné, tarit, mais il n'a plus de passage. Je monte un mur au fur et à mesure et il ne peut plus passer. Alors le Saint-Esprit va couler ailleurs, dans des cœurs mieux disposés. Vous avez remarqué cette image dans ce qui était dans la vision, il était question des marées et des fosses qui ne seront pas assainies. Elles seront abandonnées au sel. Dans ce contexte, le sel, c'est pas bon, hein. C'est le sel de la stérilité, le sel de la mort. Mais pourquoi est-ce que les marées et les fosses ne sont pas assainies? Parce qu'ils sont sur les bords, à l'écart du fleuve, à l'écart du lit de la rivière. Ils se tiennent à côté. Ils ne sont pas tout prêts et du coup, ils ne profitent pas de la bénédiction. Qu'est-ce que vous voulez, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous voulons? Être en marée ou être en plein milieu, comme le prophète, en plein milieu du fleuve du Saint-Esprit et nous laisser emporter par l'abondance de sa puissance? Oh, ne répondez pas, je sais ce que vous pensez. C'est comme moi, Seigneur, que tes fleuves d'eau vive coulent dans mon cœur. Qu'il n'y ait aucun écart, qu'il n'y ait aucune fosse, aucun marais dans mon propre cœur, mais que partout tu puisses aller, jusqu'en profondeur, pour m'amener à grandir, pour m'amener à goûter à tes bénédictions dans ma vie. On va fermer les yeux, juste quelques instants. Mais aujourd'hui encore, ce fleuve provenant du cœur de Dieu, ce fleuve qui coule de la croix, du lieu très saint, qui peut couler parce que Jésus a versé son sang, ce fleuve de grâce, de pardon, de paix, coule ce matin encore. Mon frère, ma sœur, pour toi. Mais Dieu te laisse le choix de venir puiser. Dieu te laisse le choix même de te jeter dans ce fleuve ou de le regarder de loin. Alors, je t'invite, je t'encourage à venir dans le secret de ton cœur et à dire, Seigneur, viens par tes eaux vives sur mon âme, viens renouveler ma foi, viens guérir, viens assainir peut-être des pensées qui sont là, qui ne devraient pas y être. Viens, Seigneur, purifier des attitudes que je fais, Seigneur, et qui ne sont pas bonnes. Viens, Seigneur, manifester ta vie. Aide-nous, Seigneur, à porter du fruit. Aide-nous à vivre selon, Seigneur, ta parole. Aide-nous à ne pas être emportés à tout vent de doctrine, mais à être des hommes et des femmes constants, qui ne sont pas ballottés de droite et de gauche, Seigneur, par tout ce que l'on peut entendre, mais qui sont fortement appuyés sur ta parole, qui sont fermement accrochés à ce que tu as dit, que ton Saint-Esprit nous dirige, nous conduise, nous canalise, afin que nous puissions être des bénédictions dans ce monde, auprès de ceux que nous côtoyons, auprès de nos familles, auprès de nos voisins, auprès, Seigneur, de nos collègues de travail, auprès de tous ceux que nous aimons, Seigneur. Oh, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, besoin de ce fruit de l'Esprit dans nos vies. Seigneur éternel, viens couler dans ces instants, viens manifester dans le cœur de ceux qui ont besoin de toi, combien tu es puissant. Je pense aussi à tous ceux peut-être dans ce lieu ne te connaissent pas encore de cette manière-là, que vraiment tu puisses ouvrir ce fleuve d'eau vive dans leur cœur, alors qu'ils viennent à la source, à la croix, qu'ils s'agenouillent devant toi, qu'ils réalisent leurs péchés. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne et qui fait le miracle de la nouvelle naissance. Tu déverses ton eau pure sur les cœurs sont purifiés, le cœur dur devient un cœur tendre. Merci pour cette œuvre, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te célébrons ce matin, parce que nous reconnaissons notre privilège. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Amen.